Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le président français a officialisé la semaine dernière la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Elle avait commencé en août 2014 pour lutter contre les groupes armés djihadistes de la région. Notre invité sera Sédik Abba, journaliste, auteur, spécialiste des questions africaines et spécialiste du Sahel. La Turquie a enterré hier les 6 victimes de l'attentat survenu dimanche dans la grande rue commerçante d'Istiklal à Istanbul. Des frappes iraniennes contre des Kurdes irakiens ont fait un mort et 8 blessés. Le sommet du G20 à Bali en Indonésie. La guerre en Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel, mais elle domine la réunion internationale après 9 mois de conflit. La 34e édition du festival Africolor commencera vendredi prochain. Des dizaines d'artistes vont se produire dans toute l'Île-de-France jusqu'au 24 décembre. Nous écouterons le directeur et programmateur de ce festival, Sébastien Lagrave. Emmanuel Macron a récemment officialisé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Elle avait commencé en août 2014 pour lutter contre les groupes armés djihadistes de la région. Les soldats français avaient quitté le Mali en août dernier. Quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Sur la situation et la coopération sécuritaire dans la région et sur la puissance des groupes terroristes, entretien avec Sédik Abba, journaliste, auteur, spécialiste des questions africaines et spécialiste du Sahel, Sédik Abba.
La situation, elle est à la date d'aujourd'hui beaucoup très dégradée, puisque depuis que le dernier soldat français a quitté le Mali le 15 août dernier, la situation ne s'est pas améliorée dans la zone de trois frontières. Et les emprises françaises qui avaient été rétrocédées aux forces armées maliennes n'ont pas été totalement réoccupés par les forces armées maliennes et du coup, on se retrouve dans une configuration où l'espace qui a été libéré a été réoccupé par les groupes djihadistes. Il y a un regain d'activité de la part de l'État islamique au Grand Sahara qui est très présent dans cette zone et on a assisté dernièrement à des affrontements entre l'État islamique au Grand Sahara et le mouvement de salut de l'Azawad, le MSA, qui a essayé d'empêcher l'État islamique de gagner du terrain et ses affrontements sont meurtriers. Depuis le mois de mars à aujourd'hui, on dénombre à peu près entre 700 et 1000 personnes qui ont été tuées justement lors de ces affrontements. Et du côté du Burkina, on n'a pas d'amélioration non plus comme on a pu le constater. Le premier coup d'État qui a été fait en janvier 2024 était censé ramener une amélioration de la sécurité au pays et finalement, à la fin du mois de septembre, un deuxième coup d'État s'est produit parce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Et à la date qu'il est, on pense que au moins 40% du territoire burkinabé échappe au contrôle de forces armées burkinabé. Il y a une relative amélioration du côté du Niger où il y a moins d'attaques que par le passé. Mais là aussi, ça peut s'expliquer par le fait que l'armée française, en se désengageant du Mali, s'est installée sur la frontière entre le Mali et le Niger et elle participe aujourd'hui avec l'armée nigérienne à des opérations qui ont permis de sécuriser, en tout cas d'améliorer la sécurité dans cette partie, puisque la nouvelle doctrine sur le partenariat de combat, ça veut dire que les militaires français et les militaires nigériens combattent côte à côte, mais globalement, la situation sécuritaire reste très préoccupante avec le risque d'extension, si ce n'est déjà fait, au pays du Golfe de Guinée, à savoir le Togo, le Bénin, qui ont déjà été attaqués plusieurs fois, et même le Ghana a subi une attaque.
Et vous évoquiez la situation au Burkina Faso, où plus de 4000 écoles sont fermées à cause des attaques terroristes, et c'est ce qu'indiquent les autorités burkinabées.
Oui, absolument. Il y a des centaines, des milliers d'élèves burkinabés qui ne peuvent plus aller à l'école du fait de l'insécurité parce que l'école est devenue une cible privilégiée des djihadistes et plusieurs enseignants ont été assassinés par le groupe djihadiste qui ne veulent pas de l'école occidentale au prétexte que cette école-là, cette forme d'école en tout cas, amène les enfants, entraîne le dévoiement des enfants, entraîne, fait égarer les enfants. Donc, ils s'en prennent particulièrement à l'école comme symbole. L'école est particulièrement visée. Et c'est la situation au Burkina se retrouve aussi du côté du Mali et du Niger. Dans toute cette zone de trois frontières qui est commune entre au Niger, au Burkina et au Mali, des centaines de milliers d'élèves ne vont pas à l'école et l'UNICEF a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. Mais tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école. Et tant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de progrès. Aujourd'hui, on évalue surtout le nombre de victimes, les infrastructures qui sont détruites, mais c'est des générations d'Africains de cette partie de l'Afrique qui ne vont pas aller à l'école et ça va se ressentir, je crois, dans le développement de ces pays dans les prochaines années.
C'est important, vous mettez en lumière l'accès à l'éducation qui est impacté par la dégradation de cette situation sécuritaire.
Oui, absolument, très important. Et ça amène aussi à ce qu'on dit souvent, en tout cas des gens comme moi disent, que la solution à la crise au Sahel, et particulièrement dans la zone des trois frontières, n'est pas que sécuritaire et militaire. Elle a besoin aussi qu'on intègre la dimension développement de ces zones-là, la dimension bonne gouvernance, la dimension parce que l'injustice sociale et l'absence de bonne gouvernance alimentent aussi le terreau, créent un terreau favorable aux groupes djihadistes qui essaient d'instrumentaliser ce type d'argument pour recruter notamment des jeunes qui n'ont pas de perspective ou qui n'ont plus confiance à la forme de l'État qui est censé, et puis il y a aussi l'absence de l'État. Donc, si on veut apporter une solution, il faut sans doute incontestablement avoir la question militaire et sécuritaire pour rétablir un minimum d'ordre et de sécurité, mais il ne faut pas oublier non plus la question développement, la question retour de l'État et la question bonne gouvernance.
Et quels sont les principaux partenaires de ces pays du Sahel aujourd'hui suite au départ des forces françaises concernant la coopération sécuritaire?
Particulièrement, le Mali a contracté une société de sécurité russe qui est connue sous le nom de Wagner, qui est son partenaire, et il y a aussi la Russie en tant qu'État. Donc il y a une coopération bilatérale avec la Russie qui est doublée d'un partenariat avec Wagner pour le Mali. Donc il y a une situation un peu particulière au Mali, mais qu'on ne retrouve pas au Niger et au Burkina. Parce que en dépit des appels de certains milieux à un partenariat avec la Russie, pour l'instant, le Burkina et le Niger n'ont pas cédé à ces sirènes du partenariat avec la Russie. Et du coup, aujourd'hui, les risques se trouvent au Mali. Et malheureusement, ceci a eu pour conséquence d'affaiblir la coopération entre les pays de cette zone de trois frontières. Puisque le Niger estime ne plus pouvoir coopérer directement avec le Mali, puisque le Mali a de nouveaux alliés qui ne peuvent pas, avec lesquels il ne peut pas travailler. Et du coup, bon, avec le Burkina, il y a eu quelques opérations conjointes avec le Mali, mais l'arrivée de ce nouveau partenariat a un peu déstabilisé la coopération sous-régionale. Et c'est ça, un des plus grands impacts. Si les conséquences ne se limitaient qu'au Mali, on pouvait comprendre, mais l'arrivée de la Russie, l'arrivée de Wagner, a un peu déstabilisé la coopération. Par exemple, entre le Mali et le Niger, il n'y a plus de coopération militaire. Or, la zone des trois frontières entre le Niger et le Mali est essentielle si on veut obtenir des résultats dans la lutte contre le terrorisme. C'est que les terroristes ont compris les mauvaises relations entre le Niger et le Mali. Ils peuvent faire des opérations au Niger et revenir au Mali. Ils peuvent faire des opérations au Niger et aller au Mali et vice-versa. Donc c'est ça aujourd'hui le contexte dans lequel on se trouve. Il y a un affaiblissement de la coopération régionale du fait du choix qui a été fait par le Mali de contracter des relations avec Wagner et la Russie.
Et quel est le regard de la société civile, des sociétés civiles de ces pays sur cette nouvelle situation?
Oui, et il y a les gens, vous savez, et souvent au prix d'une propagande et au prix de la déception envers les résultats. Les gens se disent que puisque depuis 9 ans, depuis 10 ans, on n'a pas obtenu de résultats, en ayant de nouveaux partenaires, on peut obtenir des résultats. Donc il y a une partie de la société civile qui pense qu'avec l'arrivée de la Russie, avec l'arrivée des nouveaux partenaires, la situation va s'améliorer. Or, concrètement, depuis que les Russes sont là, depuis que Wagner est là, il y a une dizaine de mois, les résultats ne sont pas totalement au rendez-vous. Le rapport de force avec les groupes djihadistes ne s'est pas inversé. Au contraire, il y a des territoires, de nouveaux territoires qui sont conquis. Et je pense que c'est l'espoir. Les gens sont aujourd'hui, du fait du désespoir qu'ils ont, du fait de mauvais résultats, pensent que la solution avec la Russie ou l'Ukraine, la Russie ou Wagner, peut être meilleure qu'avec la France. Or, même si les Russes apportent, comme ils l'ont fait au Mali, des avions de combat, des transports de troupes, ça ne suffira pas parce qu'on va rester toujours sur le registre militaire. La question du développement, la question de la gouvernance ne seront pas intégrées et on n'aura pas finalement des résultats. Et une partie de l'opinion aujourd'hui est très sensible à ce discours de changement de nouveaux partenaires avec l'espoir que, puisqu'on n'a pas obtenu des résultats qu'on veut, on attendait avec la France, avec un autre partenaire, on va obtenir des résultats. Mais le fait est que dans quelques années aussi, on va constater que avec le nouveau partenaire, ce n'est pas mieux parce que le nouveau partenaire, lui aussi, il propose que l'option militaire et sécuritaire, alors que la solution n'est pas celle-là.
Sedi Kaba, journaliste, spécialiste des questions africaines, spécialiste du Sahel. Il est notamment l'auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, chez Impact Éditions. La Turquie a enterré hier les 6 victimes de l'attentat survenu dimanche dans la grande rue commerçante d'Istiklal à Istanbul, attentat attribué par les autorités au mouvement kurde du PKK, mouvement qui dément toute implication. Cette attaque a aussi fait 81 blessés. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 22 suspects, dont l'auteur présumé de l'attaque. Des frappes iraniennes contre des Kurdes ont fait un mort et 8 blessés au Kurdistan irakien. La mission des Nations Unies en Irak a condamné ces nouvelles attaques de drones et de missiles au Kurdistan qui, souligne-t-elle, viole la souveraineté de l'Irak. L'Iran a confirmé des frappes contre ce que Téhéran a qualifié de groupe terroriste basé dans cette région autonome. Les États-Unis ouvrent une enquête après la mort de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh. Elle a été tuée en mai dernier en Cisjordanie occupée alors qu'elle couvrait un raid israélien. Suite à l'annonce de l'ouverture de l'enquête, sa famille évoque une étape importante. 2 Israéliens ont été tués aujourd'hui après une attaque près d'une colonie israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'assaillant a été abattu. L'armée israélienne a fait état d'une attaque au couteau près de la zone industrielle d'Ariel. Dans le même temps, le ministère palestinien de la Santé a rapporté la mort d'un citoyen tué par des balles israéliennes dans ce secteur. L'épidémie de choléra au Liban. 10 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Cela porte le total de cas confirmés à 546. D'après le rapport du ministère de la Santé, 18 personnes sont mortes depuis la réapparition de la maladie au Liban le 5 octobre dernier. Une épidémie qui sévit aussi en Syrie voisine. Le sommet du G20 s'est ouvert à Bali, en Indonésie. C'est le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est aussi le premier sommet à se tenir près de 9 mois après la guerre en Ukraine. Le président ukrainien a appelé les dirigeants à tout faire pour que cesse la guerre. Lors de son intervention en visioconférence et à huis clos, Volodymyr Zelensky a aussi dénoncé les menaces folles de recours à l'arme nucléaire de la Russie, selon ses mots. Le 18e sommet de la francophonie, samedi et dimanche prochain à Djerba, en Tunisie. De nombreux chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Les autorités tunisiennes ont donné le coup d'envoi des festivités en inaugurant le village dédié à l'événement. La secrétaire générale de la francophonie a effectué hier une visite au village tunisien de la francophonie. Selon les derniers chiffres de l'OIF, le nombre de locuteurs en français est passé de 300 millions en 2018 à 321 millions en 2022, une augmentation de 7% qui vient du continent africain. C'est un festival qui se déroulera dès vendredi prochain dans une vingtaine de lieux en Île-de-France. Le festival Africolor de Bobigny à Goussainville, ces villes accueilleront de nombreux artistes liés à l'Afrique, comme le chanteur kabyle Ali Amran. Je vous propose d'écouter Sébastien Lagrave, directeur et programmateur d'Africolor.
C'est un festival qui existe depuis 1989, qui est né à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, et petit à petit est devenu un festival départemental, puis régional. Et l'idée, c'est de travailler avec les 24 et maintenant 27 lieux partenaires du festival à des programmations d'artistes émergents, parfois totalement inconnus du grand public et parfois un peu des stars dans les pays d'origine du continent. Effectivement, c'est des programmations qui sont pensées avec tout le monde, parfois un an et demi, deux ans à l'avance, oui.
Alors, ce sont des programmations qui sont pensées longtemps à l'avance. Et puis, pour les artistes, parfois, ce sont des spectacles conçus spécialement pour le festival.
Oui, oui, oui. Et par exemple, avec Ali Amran, on s'est parlé l'an dernier et il m'a fait part de ce projet de travailler à revisiter le répertoire de Cheikh El Asnaoui. Mais il nous a fait l'amitié de faire la toute première pour Africolor. Donc, c'est parfois des cadeaux que nous font les artistes, oui.
Qu'est-ce qui relie ces différents artistes entre eux ?
Alors, je crois que l'idée d'Africolor, c'est de programmer des artistes qui, chaque année, écrivent à leur façon, à leurs endroits, une nouvelle page de l'histoire des musiques africaines, telle qu'ils la conçoivent eux. Ce n'est pas à moi de leur dire ce que sont les musiques africaines, mais dans ce qu'ils font, dans les rythmes, dans les paroles, dans aussi parfois leur engagement citoyen, notamment dans les musiques urbaines. Eh bien, ils apportent une pierre nouvelle à cette histoire, qui est notre histoire aussi, et ils partagent ça avec nous, justement.
Alors, ce sont des artistes qui souvent se produisent dans des pays étrangers et dans des salles à Paris. Le fait que ces concerts aient lieu là où vivent les Franciliens, ça apporte une dimension supplémentaire ?
Je crois que c'est très très important. Nous, c'est un des objectifs du festival, hein, de donner une visibilité à ce qu'on appellerait maintenant cette part d'africanité de notre pays. C'est très important de donner cette visibilité en Île-de-France. Et ça veut dire que faire partager au grand public cette richesse des musiques du continent, qui font partie de l'histoire universelle de la musique, et aussi ce qu'ont vécu ceux qui sont arrivés ici dans les années 60, leurs enfants, leurs petits-enfants, ce qu'ils écoutent, et puis ce qu'écoute le grand public parfois, sans savoir que tel ou tel artiste est venu de tel ou tel pays. Je prends un exemple, cette star désormais mondiale qui est Aya Nakamura, dont les parents sont venus du Mali, notamment.
Sébastien Lagrave, directeur et programmateur d'Africolor, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.